Les vœux du président, chaque année, vous savez, c'est le même exercice de rhétorique qu'il ne faut absolument pas manquer, moins pour dire quelque chose d'ailleurs que pour montrer quelque chose. Et ça peut paraître futile comme ça d'essayer de donner une bonne image de soi, pourtant c'est un élément central de la rhétorique. L'image que l'on donne de soi, les Grecs appelaient ça l'éthos et ils considéraient que c'était aussi important que le raisonnement du logos ou l'émotion du pathos. Alors la question pour Emmanuel Macron ce soir du 31 décembre, c'était donc aussi quelle mise en scène proposer de soi devant cette grande table en marbre, habillée d'un crayon et d'une feuille de papier, entourée de deux drapeaux et d'un tableau à la gloire de la fraternité. Il s'agissait d'asseoir, évidemment, son autorité et sa crédibilité, sa bienveillance et sa magnanimité. Il s'agissait, comme toujours, dans ce type de discours, d'entrer dans la peau, sinon d'un héros, du moins d'un personnage en train de s'écrire, quelque part entre le grand président d'antan et l'éternel moderne que fut Kennedy, et qu'il finit d'ailleurs par paraphraser à la toute fin de son intervention. C'est là que surgit le personnage, l'image à diffuser, à donner de soi, un éthos de la continuité. Ce qu'il faut montrer, apparemment, c'est que tout ce qui se fait et se fera s'inscrit et s'inscrira dans la continuité d'une élection, mais aussi d'une tradition. Plutôt que de renouveau, il vaut mieux, par exemple, parler de renaissance, d'une certaine idée de la modernité et de la constance.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est un as du discours dans le sens où il est romancier et c'est mieux que quiconque ce qui fait l'étoffe d'un personnage de papier. Il y a 4 ans, il recevait, vous vous en souvenez, le prix Goncourt pour Au revoir là-haut avec Couleur de l'incendie qui sort demain matin en librairie. Il poursuit ce qui s'avère être une trilogie de l'entre-deux-guerres sur fond de crise financière, montée des nationalismes, revers de fortune et vengeance aux petits oignons. Un grand roman pour inaugurer 2018. Bonjour Pierre Lemaître.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Alors avant toute chose, et là c'est vraiment au romancier que je m'adresse, notre président, quel personnage est-ce qu'il est en train d'écrire sous nos yeux, à votre avis?
Je ne suis pas sûr qu'il le sait lui-même. Il fait des tentatives. Et puis vous savez, dans ce que vous avez dit tout à l'heure sur la représentation de soi, je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a ce qu'il essaie de dire, et puis ce qu'il dit malgré lui. Alors ce qu'il essaie de dire, je crois, c'est une image de la jeunesse, une image de la fermeté. Mais ce qu'il dit malgré lui, en quelque sorte, ce qui est en filigrane de tout ça, c'est que au fond son discours sur la jeunesse devient au fond une course à la légitimité et sa fermeté devient une tentation autoritaire.
Est-ce que c'est un bon personnage de roman?
Je le trouve un peu plat pour ma part.
Qu'est-ce qui fait pour vous, Pierre Lemaître, un bon personnage de roman?
Le relief.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire les contradictions, c'est-à-dire, vous voyez, je trouve Emmanuel Macron, je le trouve un peu plan. Vous savez,
Une surface plane, en fait.
Oui, c'est ça, je le trouve un petit peu plan, je trouve qu'il est un petit peu résumable à une certaine devise, à un slogan, vous voyez.
Qui serait?
Je suis jeune, je suis ferme, je suis moderne. Voilà. Soyons modernes. Le monde nouveau a commencé, vous voyez, ce genre de slogan. Et moi, je trouve ça un tout petit peu étal, vous voyez, je trouve ça un petit peu plan, oui, tout à fait.
Alors, c'est intéressant parce qu'à vous lire, on peut aussi se dire que ce qui participe de la construction d'un personnage de roman, c'est son inscription dans une époque, justement. Au fond, qu'est-ce que le personnage Macron nous dit de l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, Pierre Lemaître?
Alors, je crois que ce qu'il nous dit, c'est quelque chose de très vieux. Vous voyez, c'est curieux, c'est que au fond les hommes nouveaux se conduisent comme les anciens, simplement ils sont plus jeunes.
Oui.
Vous voyez, ils se conduisent comme les vieux, parce qu'au fond ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est il n'y a plus de politique, il n'y a plus de la technique. Ça c'est Saint-Simon, c'est le début du 19e siècle, on connaît ça depuis très longtemps. Enfin, nous sommes au 21e siècle et on nous fait une recette qui date du 19e, début du 19e. En fait, la technocratie dont je parle dans le roman, hein, qui se trouve dans les années 30, c'est cette idée que au fond il faut confier les rênes du pouvoir à ceux qui sont des techniciens, qui sont des experts, et que les mesures ne sont ni de droite ni de gauche, il y a ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous voyez, c'est ce qui fait que nous avons un président qui n'est ni de gauche ni de gauche.
Alors, c'est assez passionnant, parce qu'effectivement, en parlant de l'époque de l'entre-deux-guerres, votre héroïne la qualifie de brutale, page 315. Et j'ai l'impression, effectivement, en vous écoutant, que cet adjectif s'applique également à aujourd'hui. Non, quelle brutalité!
Alors, je crois que ça n'est pas tout à fait la même. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai travaillé sur les années 30, c'est la brutalité physique. C'est-à-dire que les gens se tapaient dessus dans la rue, hein, les croix de feu qui descendaient dans la rue descendaient avec des cannes à pommeaux et se tapaient dessus, et les gens de l'Action française étaient des gens très violents, et les communistes étaient très violents, enfin tout le monde était très violent, on se battait dans les rues jusqu'en février 34 où on a eu des échauffourées massives. Aujourd'hui, la violence est plus symbolique, si je mets à part bien sûr les pauvres et les SDF qui eux vivent quelque chose qui n'est pas symbolique du tout.
Dans quelle mesure est-ce que parler du passé, explorer l'histoire pour vous, c'est toujours éclairer le présent?
Alors c'est éclairer le présent, mais ça n'est pas, comment vous dire, je pense que le roman historique, ça n'est pas l'explication d'aujourd'hui par les images d'hier.
Ce serait trop simple.
Ce serait trop simple. Et puis l'histoire ne se duplique pas, et puis bon, rien n'est vraiment comme avant, hein, pourrait-on dire. En revanche, je trouve que c'est intéressant de poser le regard d'aujourd'hui sur hier pour comprendre d'où nous venons. Et nous venons notamment de cette période de l'entre-deux-guerres que la trilogie que je publie là essaye de décrire.
Couleur de l'incendie, c'est donc le titre de ce roman qui fait suite à Au revoir là-haut. Vous racontiez, Pierre Lemaître, on s'en souvient, entre autres choses, une grande escroquerie au monument aux morts dans l'immédiate après-guerre. Ce roman, Au revoir là-haut, quand on y pense, quelle histoire quand même.
Pour avoir déclenché la guerre.
Le prix Goncourt 2013 a été décerné au roman de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut.
Au revoir, aimer l'affaire.
L'impression de vivre un roman, l'impression de vivre une situation tellement exceptionnelle qu'elle ne peut exister que dans un roman.
Vous êtes tous condamnés à mort.
Aujourd'hui !
Je n'avais jamais vu autant de caméras, autant de photographes.
Tiré initialement à 30 000 exemplaires, il s'en est vendu à ce jour 620 000 exemplaires, après 21 réimpressions.
Un dingue qui vit masqué, qui dessine à longueur de journée.
Au revoir là-haut, prix Goncourt, il y a 4 ans, c'était un choc de littérature. On se disait, mais comment est-ce qu'on peut adapter ? Et puis, Albert Dupontel est arrivé, a dit, c'est pour moi, le film sort la semaine prochaine, avec un casting impressionnant.
Ta famille, ça fait 4 ans qu'il attend.
Ton père, il sera content que tu rentres de la guerre, même avec le visage un peu esquinté. Et maintenant que la guerre est finie, tu vas disparaître.
Alors, à quand, Pierre Lemaître, l'écriture d'un roman sur ce succès, justement ?
Oh, je pense que je ne le ferai pas, parce que j'essaye d'écrire assez loin de moi. Alors, bon, on n'écrit jamais vraiment loin de soi. On se décrit toujours un peu dans ses livres, même quand on prend des histoires qui vous sont extérieures. Mais en tout cas, je n'ai pas trop la tentation de autobiographique. C'est pas trop mon truc.
Sans un succès pareil, est-ce qu'il y aurait eu une suite ? Au revoir là-haut.
Oui, il y aurait une suite. D'ailleurs, vous savez, le livre était terminé un an avant sa parution, et l'épilogue ouvrait déjà un certain nombre de portes.
Oui.
J'avais pris tellement de plaisir et de jubilation à écrire ce livre que j'avais imaginer qu'il y aurait une suite. Je n'avais pas programmé ce qui allait effectivement se passer, mais en tout cas la suite était inscrite un an avant sa parution.
Mais alors de quel projet littéraire est-ce qu'on parle précisément aujourd'hui ?
Alors on parle aujourd'hui d'une trilogie qui va couvrir 3 décennies, qui commence donc avec Au revoir là-haut dans les années 20, qui se poursuit avec Couleur de l'incendie dans les années 30 et qui s'achèvera avec La drôle de guerre et l'exode de 40. Et donc on aura au fond en 3 livres une petite photographie vue par un romancier, donc c'est une photographie parmi d'autres, je prétends pas raconter l'histoire à la place des historiens, je suis purement un romancier, mais qui va donner une espèce de petite photographie de cette histoire avec un angle assez particulier, qui est de choisir toujours dans l'histoire un angle un petit peu inaccoutumé. C'est-à-dire, vous voyez, sur la première guerre, je choisis pas la première guerre, je choisis pas la guerre proprement dit, je choisis l'après-guerre.
Oui.
Là, ici, je choisis la question de la fortune, et dans le troisième, je vais choisir l'exode, qui est le moment de panique, où un peuple entier est saisi d'une panique totalement irrationnelle.
Vous avez déjà le titre du troisième ?
Non, je ne l'ai pas encore, mais je fais un appel aux bonnes volontés. Je suis preneur de toutes les propositions.
Les auditeurs de Boomerang l'ont entendu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y aurait 1000 façons de poursuivre cette épopée historique, effectivement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous concentrer sur un personnage qui avait été assez peu développé dans Au revoir là-haut, à savoir Madeleine Péricourt, la fille du grand banquier, sœur du soldat défiguré, qui était l'un des 2 héros du premier tome?
Alors, pour une raison simple, c'est que je ne veux pas véritablement faire une saga où on va suivre les personnages. Je n'avais pas envie, après Au revoir là-haut, d'écrire Au revoir là-haut 2, puis le fils d'Au revoir là-haut et le retour du fils d'Au revoir là-haut. Bon, donc, je voulais faire autre chose et donc j'ai choisi quelque chose qui m'a semblé romanesquement prometteur pour le lecteur et pour moi. C'est-à-dire d'aller chercher dans un livre précédent un personnage secondaire. Quelqu'un qu'on a vu dans le décor, qu'on a un peu oublié et qui d'un seul coup devient un personnage principal. Il faut pour ça que le personnage secondaire ait ce que j'appellerais un potentiel narratif,
c'est-à-dire
des trucs à raconter. Et je trouvais que Madeleine dans les années 30, c'était vraiment le bon personnage parce que c'est une époque exclusivement masculine. Comprenons bien. À la fin de la Première Guerre mondiale, les femmes espèrent avoir gagné l'égalité. Elles ont tenu les fermes, elles ont tenu les usines. Elles ont droit, d'une certaine manière, elles ont une légitimité à réclamer une égalité avec les hommes. Or, dans les années 30, on les renvoie à la cuisine, on les renvoie dans la coulisse, et les femmes redeviennent ce qu'elles étaient, c'est-à-dire ce que Simone de Beauvoir appelait des êtres relatifs. C'est-à-dire relatifs au père, relatifs au mari, relatifs aux hommes, d'une manière générale. Et donc, ça me paraissait drôlement intéressant d'aller chercher ce personnage, puisque finalement, c'est une héritière d'un petit empire bancaire, dans une période où les femmes n'ont même pas le droit de signer des chèques.
Et puis, Pierre Lemaître, elle a un objectif, se rendre justice, pour ne pas dire se venger de tous ceux qui ont causé sa perte. Et vous admettrez que la frontière entre vengeance et justice est très mince dans votre livre. tout ça n'est pas très moral.
Non, c'est pas très moral, mais moi, mon métier n'est pas d'être moraliste, je suis romancier.
Alors précisément...
Mon boulot, c'est d'écrire une histoire et de laisser au lecteur le soin de tirer la morale.
Est-ce que ce serait pas ça, précisément, Pierre Lemaitre, la définition du bon personnage, un personnage qui échappe à la question de la morale?
Alors, c'est sûrement qui échappe à la question de la morale vue par le romancier, mais qui doit, d'une certaine manière, appartenir à la morale du lecteur. Au fond, le lecteur, il doit faire son boulot aussi. Moi, je fais mon boulot, j'écris une histoire. Et son boulot à lui, c'est, une fois qu'il l'a lu, une fois qu'il a payé le livre pour faire des droits d'auteur, eh bien, il a le droit, il a le devoir d'avoir son avis sur la question et de juger les personnages et le roman comme il le souhaite.
Celle qui a une morale épouvantable dans cette émission, sans doute la connaissez-vous. Elle est méchante, effectivement, c'est la culture et son actualité crasse, mesquine et gratuite. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 2 janvier ?
This is the moment. And if we want it to be the moment, it for sure will be the moment.
Time is up, c'est fini en français. C'est le nom du grand projet contre le harcèlement sexuel au travail lancé hier par près de 300 personnalités du cinéma américain, dont Nathalie Portman, Meryl Streep ou Kate Blanchett. L'objectif, créer une fondation pour financer les frais de justice contre les prédateurs sexuels à Hollywood, mais aussi et surtout dans tous les autres secteurs professionnels moins privilégiés. You go, girls.
Tout ce qui est beau et léger, ce sont les gens que j'ai aimés qui m'ont aidé à croire à la légèreté.
Bonne année et surtout bonne santé. Pour sa carte de vœux 2018, la ministre de la Culture Françoise Nyssen a fait appel à l'honorable et très chic illustrateur Jean-Jacques Sempé. Sur le dessin animé tiré de l'album Bourrasque et Accalmie paru en 2013, on peut voir une classe d'enfants en visite dans un musée en train de participer à un atelier de peinture pour une belle et heureuse année 2018 d'art et de couleurs. Hashtag douceur. Animalement vôtre, l'acteur américain Roger Moore a été élu personnalité de l'année 2017 par l'association PETA pour la protection et l'éthique dans le traitement des animaux. Le comédien immortel, incarnation de James Bond au cinéma, très sensible au bien-être animal, est engagé notamment contre le foie gras ou l'exploitation des animaux dans les cirques.
L'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Et qu'est-ce que vous nous foutez là, monsieur Arto?
Antonin Artaud, Al Capone ou Aleister Crowley, une petite sélection des auteurs dont les œuvres et les écrits sont tombés hier dans le domaine public. Ces derniers sont donc désormais librement accessibles et réutilisables par le public sans avoir besoin de demander de permission préalable. À nous donc le théâtre et son double de l'écrivain délirant, l'autobio Al Capone ma vie du gangster mythique ou le livre de la loi de l'occultiste britannique. Ça c'est chic, chic, chic. Et Pierre Lemaitre, invité exceptionnel de Boomerang ce matin pour la sortie. Demain, de couleurs de l'incendie, les heures et malheurs, on le disait, d'une fille de banquier prise dans la tourmente de la crise des années 30. Un livre qui n'est pas dénué de noirceur, mais dans lequel vient se loger, là où on ne l'attend pas, un humour grinçant qui donne lieu à des scènes absolument rocambolesques. Je me suis demandé, qu'est-ce qui vous fait rire?
L'écriture en soi est une source de jubilation. Et ce qui me fait rire, c'est que lorsque le personnage ne m'échappe pas, j'entends rester le patron dans la maison et le personnage doit faire exactement ce que je lui demande de faire. C'est moi le patron. Mais par contre, le personnage va me surprendre. D'un seul coup, un mot, une phrase, vous découvrez d'un seul coup une dimension et vous avez envie de vous engouffrer dans ce couloir. Et là, il y a une jubilation. Puis je suis quelqu'un de plutôt joyeux. Je me mets le matin à mon travail avec un solide appétit et je pense que ça se ressent dans le style du livre.
Mais alors, quel rôle joue l'humour dans un livre comme le vôtre? Justement, c'est un catalyseur de narration.
Oui, c'est un catalyseur de narration, et puis c'est aussi, d'une certaine manière, une soupape. C'est un anxiolytique. C'est-à-dire que c'est un petit peu angoissant de mener une grosse histoire comme ça avec beaucoup de personnages. Les personnages sont eux-mêmes dans une situation qui n'est pas toujours bien marrante, et je pense que l'humour est d'une certaine manière l'anxiolytique que nous partageons les personnages et le romancier.
Et puis une façon aussi, Pierre Lemaitre, de mettre le lecteur dans votre poche, d'en faire une sorte de complice. Lorsque vous parlez de vos livres, vous parlez volontiers de littérature populaire. Qu'est-ce que c'est un roman populaire pour vous?
Un roman populaire, c'est un roman fédérateur. Alors c'est un mot un petit peu bébête, mais je vais essayer de l'expliquer. C'est un bon livre, je crois, c'est quelque chose qui peut se lire à plusieurs niveaux. Dans mon livre, on peut le lire au premier niveau, c'est-à-dire pour l'aventure, savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette Madeleine Péricourt qui est menacée par la ruine. On peut aussi le lire à un deuxième degré, c'est-à-dire se rendre compte que tel chapitre est une démarque de Proust, que tel autre est une démarque de Zola, qu'il y a ici un personnage de Balzac, on peut s'y amuser. Mais ce qu'il faut, c'est que le troisième lecteur, pourra s'intéresser plutôt à la question du fond historique, du fond social, qu'est-ce qui ressemble à aujourd'hui, quelles sont les résonances avec aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est qu'aucun de ces publics n'exclut les autres, et que sous prétexte que un Proustien peut trouver un petit peu de plaisir à lire un de mes livres, il n'exclut pas quelqu'un qui a envie de le lire au premier degré, ou au troisième degré, ou à son degré à lui, qui n'appartient ni à personne, ni au romancier, ni à personne.
Mais alors pourquoi, à votre avis, est-ce que certains en France, particulièrement, font rimer roman populaire avec mauvais roman?
Parce qu'il y a une partie de la littérature populaire un peu démagogique qui est faite pour plaire au lecteur et qui vise à servir au lecteur uniquement ce qu'on croit qu'il attend. Ça, c'est une littérature très démagogique, le prototype étant le roman sentimental du type Harlequin. Et c'est vrai que cette littérature existe et qu'elle est très nombreuse, et que du coup, d'une certaine manière, elle fait une espèce de vague énorme qui masque que derrière, il y a un certain nombre de romanciers qui sont des romanciers populaires, à savoir, ils peuvent plaire à beaucoup de publics en même temps, sans que les publics s'excluent les uns les autres.
Mais ça dit aussi quelque chose du statut de la littérature en France.
Oui, ça dit quelque chose de la littérature, c'est-à-dire, au fond, cette littérature que nous avons aujourd'hui, elle est l'héritière de, je dirais, la génération Gallimard, directement l'après-guerre. À ce moment-là, on a une certaine conception de l'auteur, et cette vision de l'auteur, elle continue aujourd'hui à durer. Vous voyez, c'est une image, on parlait tout à l'heure du président qui essaie de donner une image. Je pense qu'il y a aussi des postures d'écrivain.
Bien sûr.
Alors moi, je ne me situe pas trop dans une posture d'écrivain, parce que d'abord, je suis un romancier, puis parce que je suis un romancier tardif. Et donc, d'une certaine manière, je n'ai pas été fabriqué par ce moule-là.
C'est intéressant quand même, parce que ça répond à une conception de la littérature, ce que vous dites. Quand est-ce que vous avez compris pour vous que la littérature, c'était pour tout le monde, justement?
Je l'ai compris très jeune, puisque je l'ai compris dès que j'ai commencé à devenir lecteur à l'adolescence.
Donc bien avant d'écrire.
Bien avant d'écrire. En fait, moi, j'ai l'habitude de dire, c'est un peu excessif, mais pas tellement, c'est que l'essentiel de ce que je sais, je le dois à la littérature. Je dois peu au reste du monde. J'ai vécu dans la littérature toute ma vie, je l'ai enseigné une grande partie de ma vie, puis après j'en écris, et je peux dire que la littérature, c'est quelque chose qui m'a fabriqué, qui a fabriqué ce que je suis. Donc je suis un défenseur de la littérature, et c'est la raison pour laquelle mon travail est une perpétuelle salutation de la littérature, y compris dans ce livre-là.
Saluons. Alors, Pierre Lemaitre, on va continuer à parler de littérature ensemble, à faire revivre aussi les années 30 de votre roman. Voici que surgit dans la radio, vous l'entendez peut-être, Lucienne Boyer, ses paroles d'amour dans l'époque tumultueuse et surannée de vos couleurs, de l'incendie. Vous êtes sur France Inter avec Pierre Lemaitre. Vous écoutez Boomerang.
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Vous savez bien que dans le fond, je n'en crois rien. Mais cependant, je veux encore écouter ces mots que j'adore, votre voix au son caressant, qui les murmurant, frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère, si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin est vite apaisé, et se console d'un baiser du cœur. On guérit la blessure par un serment qui le rassure. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. beaux discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Lui aussi, on pourrait l'entendre nous redire des beaux discours, encore et toujours, avec son œil vif et futé qui accompagne sa voix profonde. Il vous ferait avaler couleuvres, salades, mensonges. Il est d'une heureuse sobriété, avec un pull camionneur noir, tout à fait sympathique ce matin. Pierre Lemaître, invité de Boomerang, pour Couleur de l'incendie, la suite donc d'Au revoir là-haut, où vous nous racontez, on le disait, les heures et malheurs d'une riche banquière qui va chercher à se venger de ceux qui ont causé sa perte. Et ce qui frappe évidemment, c'est la façon dont cette histoire nous est racontée, la mécanique très bien huilée avec laquelle s'enchaînent vos scènes. Comment est-ce que vous vous y prenez pour construire une histoire comme celle-ci précisément? Par quelles étapes est-ce que vous passez, Pierre Lemaître?
Je passe d'abord par une première étape qui est l'ébauche de l'intrigue. Je commence un roman lorsque j'ai le début, le milieu et la fin. Jamais avant d'avoir au moins ces trois ingrédients. Et ensuite, je vais vers les personnages. Parce que, vous voyez, je viens du roman policier.
Oui.
L'obstacle principal qu'on a dans le roman policier, c'est l'intrigue. L'intrigue doit être parfaitement huilée, ça doit être une mécanique parfaite. Et du coup, le romancier a tendance à concentrer beaucoup son attention sur l'intrigue et du coup, au détriment des personnages. Oui. Pour faire court, c'est Agatha Christie qui a des intrigues formidables, mais des personnages, est-ce que quelqu'un a déjà pleuré sur Miss Marple ou sur Hercule Poirot? Il faudrait qu'il aille consulter rapidement, si tel est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on peut s'amuser avec un roman d'Agatha Christie, on peut être intéressé, etc. C'est un défi à l'intelligence, mais c'est pas un défi émotionnel. Or, moi, je suis un romancier et je compte sur l'émotion. Au fond, ce qui me permet d'expliquer le monde tel que je le vois, et la raison pour laquelle j'écris, c'est l'émotion que mes personnages vont provoquer chez le lecteur.
Et vous vous laissez surprendre par eux?
Je me laisse surprendre à la marge. Je l'ai construit de manière très consciente. Je dirais, c'est une vraie fabrication. Je les laisse pas me surprendre.
Parce que c'est une question que je me pose, moi, en vous lisant. Quelle place est-ce que vous laissez au hasard, somme toute?
Le hasard, celui de l'écriture. C'est-à-dire, en fait, j'ai deux jambes. La première jambe me dit, méfie-toi de l'écriture. C'est-à-dire, ne confie pas à l'écriture le soin d'écrire ton livre. ne fais pas confiance au fil de la plume. Construis ton intrigue. Construis tes personnages. Et puis, il y a une deuxième jambe qui me dit, fais confiance à l'écriture. C'est-à-dire, laisse des trous là, parce que, d'un seul coup, le trou va être rempli par une émotion d'un personnage, par une situation, et vous allez vous dire, ça je pouvais pas le prévoir, je pouvais pas l'anticiper, mais c'est très bien pour le livre parce que ça donne du relief.
Il y a une image à l'origine du roman, la première scène tout de suite, elle vous vient comment?
Elle me vient à la fin d'Au revoir là-haut, puisque Au revoir là-haut se termine par une chute, et Couleur de l'incendie commence par une chute, c'est un écho d'un livre à l'autre, un clin d'œil au lecteur, et aussi le signe de la continuité et de la suite romanesque.
Qu'est-ce que c'est un bon début de roman pour vous, Pierre Lemaître?
C'est quelque chose qui crée un mystère, qui pose une énigme, qui pose un enjeu et qui donne suffisamment fin de la suite, de l'explication, de la résolution pour avoir envie d'aller jusqu'au chapitre suivant.
Et alors combien de versions pour arriver à ce résultat final? Quelle est la première page de Couleur de l'incendie?
Je dirais 22, 23 versions.
Mais qu'est-ce qui clochait?
J'ai tout essayé. Ce qui clochait, c'est d'abord que au début, je mettais beaucoup le petit Paul au centre du chapitre. Or, mon personnage principal n'est pas Paul, c'est sa mère, Madeleine. Et donc, j'ai beaucoup retravaillé le premier chapitre pour mettre Madeleine au cœur du débat. C'était important pour le lecteur, mais c'est important aussi pour moi de bien me souvenir me rappeler en permanence dans quelle ligne narrative je me situais. Avant tout, je raconte le drame d'une femme. Il fallait que cette femme soit au premier plan.
Vous avez remarqué que je ne dis rien sur l'intrigue.
C'est vrai, et vous avez remarqué que je suis d'une discrétion absolue, moi aussi.
Qu'est-ce que c'est un roman bien écrit?
Un roman bien écrit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que le style. Vous voyez.
Un roman travaillé, en vous écoutant.
Oui,
en tout
mais
cas.
Vous voyez, c'est très, très ambigu. J'écris, moi, des livres qui sont réputés faciles à lire. C'est la raison pour laquelle ils sont aussi difficiles à écrire. Mais pour une lecture naïve, on a un peu l'impression qu'un livre facile à lire est un livre qui a été facile à écrire. Alors que c'est tout l'inverse. Vous savez, moi, j'ai un adage en littérature, j'ai dit, il faut essayer de faire très bien des choses très simples. C'est le plus difficile. Il n'y a que Simenon qui est arrivé aussi parfaitement au siècle dernier.
Rien n'est jamais acquis.
Rien n'est jamais acquis par bonheur.
Il se trouve, Pierre Lemaitre, qu'on vous a fait travailler. Je vous ai demandé de nous écrire un texte pour ouvrir 2018 et pour clore cette émission, tout en nous ramenant quelque part au début de cette émission, puisqu'il y a une question de vœux, je crois, pour la nouvelle année.
Oui, je voudrais profiter du micro de Boomerang pour souhaiter une bonne année aux riches. Mes très chers riches, je sais que 2017 a été difficile pour vous. On vous a stigmatisé, vilipendé, menacé, mais 2018 sera meilleur que 2017. Et je veux d'abord vous rassurer, mes chers riches. Les 1% les plus riches d'entre vous possèdent toujours le quart des richesses du pays. Votre niveau de vie est le plus élevé de tous les riches d'Europe, à l'exception de la Norvège. Les meilleurs d'entre vous, parmi les patrons des grandes entreprises, perçoivent chaque année l'équivalent de 1000 années de SMIC. C'est plus que correct. Et vous êtes très correctement représenté au gouvernement. 12 millionnaires siègent au plus haut niveau de l'État. Et n'oubliez pas qu'en 2018, vous allez pouvoir dépenser les 4,5 milliards d'euros que les plus fortunés d'entre vous ont reçus. C'est une fois et demie le budget du CNRS. Est-ce que tout ça n'est pas stimulant? Quant à l'évasion fiscale, rassurez-vous, elle se porte toujours bien. Chaque année, 100 milliards d'euros échappent à l'État, en partie grâce à vous. En 2018, comme par les années passées, vous pourrez exiler votre fortune et vous faire soigner en France aux frais du contribuable. Mais il n'y a pas que la richesse qui progresse, il y a aussi la pauvreté, ce qui est excellent parce que pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Et là encore, la situation se présente très bien. En 10 ans, la France a doublé le nombre de CSDF et le nombre de ses pauvres, qui sont maintenant presque 9 millions, près de 15% de la population. 4 millions de Français sont mal logés, plus de 400 morts dans la rue en 2017, c'est excellent. On a rogné l'APL des étudiants, on va surveiller de près ces sales profiteurs de chômeurs et les demandeurs d'aide sociale qui sont le cancer de notre société. Je peux donc vous rassurer, mes chers riches, la chasse à ces salauds de pauvres va se poursuivre sans faiblesse. En conclusion, mes chers riches, pour vous encourager, je voudrais vous rappeler la très belle formule de Warren Buffett, notre ami le multimilliardaire américain. La lutte des classes existe et c'est ma classe, celle des riches, qui est en train de la gagner. Bonne année à tous.
Vous êtes en grande forme, Pierre Lemaitre.
Ah oui, moi, le 2 janvier, je pète le feu.
Ça a été difficile de devenir riche?
Ça n'a pas été trop pénible, franchement. Il y a des tâches bien plus pénibles, par exemple, celle de devenir pauvre.
C'est une certaine façon de nous souhaiter bonne année. Merci infiniment, Pierre Lemaitre, d'être venu faire un tour.
Merci de votre accueil.
Dans cette émission, nous avoir accordé votre premier entretien à la radio pour ce texte, Couleur de l'incendie, qui sort donc demain. Abonnez-vous cette année au podcast de Boomerang. C'est une belle résolution pour des matins câlins. Et pour ne rien vous cacher, c'est d'ailleurs l'une des bonnes résolutions d'une certaine Sonia. Sonia de Villers, qu'on retrouve avec son Instant M, juste après ça.
Everybody loves to
Prince of Tears, le prince des larmes, Baxter Dury sur France Inter. Et c'est l'heure de l'instant M avec Sonia de Villers.
Donc moi je me suis abonnée à votre podcast.
Merci,
vous...
d'ailleurs j'en profite pour vous remercier Sonia.
Vous êtes abonnée au podcast de l'instant M.
Évidemment, moi je suis abonnée au podcast de l'instant M depuis des plombes.
Un bon phénoménal le podcast de l'instant M le mois dernier. Mais phénoménal, 100 000 de plus, un truc de dingue. Ça c'est vous et tous vos amis je crois.
Hors sujet, hors sujet. Allez je vous écoute. Salut, salut Sonia, à demain.